l'UMC. Et ça suppose aussi de la discipline, c'est-à-dire de la régulation et du contrôle consenti de sa parole et de ses actes. Il y a régulation et contrôle, mais il y a consenti. C'est la grande exigence de cet enseignement. Alors, laïcité, bon, je serai obligé d'aller un peu vite, donc je vais développer deux minutes, deux secondes ici. C'est devenu, au cours de l'année dernière, c'est redevenu un des, alors, les philosophes ne s'entendent pas, est-ce que la laïcité est une valeur? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Je veux dire, le débat n'est pas de savoir l'importance de la laïcité. Est-ce que la laïcité est un principe de fonctionnement de notre République démocratique ou est-ce que c'est une valeur en tant que telle? Les philosophes qui disent que ce n'est pas une valeur disent tout simplement parce que la laïcité est un principe et c'est un principe qui est porté par des valeurs, les valeurs que sont l'égalité, en particulier la liberté. Ce sont des valeurs comme la liberté et l'égalité qui portent la laïcité. La laïcité, en tant que telle, n'est pas une valeur. Elle n'apporte rien de plus que de porter dans le vivre ensemble d'une république particulière ces valeurs. Mais peu importe du débat, je crois simplement qu'il faut se souvenir de deux choses. D'une part, que notre République est devenue laïque à un moment de son histoire. Ce n'est pas inscrit dans les fondements de la République, c'est quelque chose qui a été ajouté. Comme le terme décentralisé a été ajouté à la Constitution à un moment donné. Donc, pour vous dire que tout ce principe de valeur, ça évolue, bien sûr, au cours de l'histoire. Et ça a été fixé à un moment tout à fait particulier, en 1905, le 9 décembre 1905, on l'a un peu fêté il n'y a pas si longtemps que ça, à un moment où on a enterré l'âge de guerre, et pas déterré l'âge de guerre. Je crois qu'il faut simplement, non pas faire des leçons de l'histoire, une règle de vie, mais se souvenir que notre République est devenue laïque, au moment où la République, l'État, a considéré qu'il fallait arrêter d'opposer État et religion, et là, soyons, appelons un chat, religion catholique. Pendant une bonne quinzaine d'années, l'Église catholique et l'État se seront furieusement affrontés. Furieusement. Je veux dire, si vous reprenez les textes, pas que les historiens, hein, les sources de l'époque, je veux dire, c'était. Je ne sais pas si en France on vivait encore réellement dans une communauté d'intérêt. Et à un moment donné, la loi a fixé un cadre permettant, justement, de vivre ensemble, c'est-à-dire de respecter l'autre. La force de la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est justement d'accepter qu'à condition que l'Église catholique respecte la liberté des autres, elle puisse elle-même être respectée par un État qui reconnaît toutes les religions, pas seulement dans la sphère privée, comme il est dit, mais hors de la sphère de la citoyenneté. Et cette séparation de l'Église et de l'État qui se traduit dans notre Constitution par la laïcité a permis, on l'oublie très souvent, parce qu'à un moment donné, en 1903, une partie des républicains souhaitait interdire les cloches. Ah bah oui, la cloche d'une église qui sonne, c'est un signe extérieur, une manifestation extérieure et publique de prosélytisme, dirait-on dans notre vocabulaire d'aujourd'hui. Ah oui, Les manifestations, alors aujourd'hui il n'y en a plus tellement, mais imaginez en 1905 à l'Ascension au Rameau, il y avait des cortèges dans la rue. Or ces cortèges ont été reconnus par la loi de séparation de l'Église et de l'État, à condition, si je traduisais en termes d'aujourd'hui, que le cortège ne crée pas un embouteillage. C'est pour ça que, si on traduit en termes contemporains cette laïcité-là, elle peut parfaitement tolérer qu'un musulman prie sur un trottoir. Alors, à condition que ce ne soit pas devant les grands magasins un samedi, voilà. Ah oui, oui, oui. Et dans notre vie quotidienne, alors je ne sais pas trop dans le second degré, je l'ai moins suivi, mais dans l'école primaire, quand il y a une sortie avec nuitée, dit-on, chez nous, et qu'un élève, un enfant de CM, demande au directeur d'école s'il peut emmener son tapis de prière et peut prier, on ne peut pas simplement dire non. Pour deux raisons. D'abord, c'est illégal. Et deuxièmement, c'est contraire à la laïcité qui est de respecter. Mais par contre, il faut... la seule raison qu'on pourrait avoir de dire non, c'est de prouver l'impossibilité d'offrir à cet élève un endroit séparé des autres où il puisse prier. Et ça, je demande à voir si c'est aussi facile que ça à faire. On a eu les mêmes exemples en lycée, hein, dans des internats à trois classes, un gamin musulman qui souhaitait prier. Le proviseur, tout à fait logiquement, lui a dit non, pas avec tes deux camarades, il n'y a aucune raison. Par contre, je te trouve un coin, une autre salle qui, à ce moment-là, c'est souvent le soir. Il y a moyen de faire. Il ne s'agit pas. Il n'y a aucune compromission, c'est le respect. Quand on est en dehors des heures de cours, quand on est le soir, on n'est pas dans la même sphère que. Ce qui arrive par provocation, le jour d'une agrégation, un candidat à l'agrégation qui souhaite, pendant les épreuves de l'agrégation, dérouler son tapis de prière dans la salle, là, c'est net. Oui, vous comprenez. Mais c'est net en lui disant, écoutez, vous voulez prier, c'est votre strict droit. Si le règlement de l'épreuve, si vous êtes dans l'agrégation au bout des trois premières heures, vous avez le droit de sortir de la salle. Vous priez aussi longtemps que vous voulez, mais c'est défalqué de vos sept heures d'épreuve écrite d'histoire. C'est pas la même chose. Et ça, c'est ça la séparation de l'Église et de l'État. C'est ça la laïcité. C'est ça notre République laïque. C'est pas une laïcité de combat qui va nous permettre d'interdire. C'est la laïcité qui fait la différence entre ce qui relève d'une sphère publique, ce qui relève d'une sphère strictement privée et ce qui est la vie quotidienne de citoyens qui vivent ensemble. Alors, une tradition quand même pour nous, c'est la neutralité. Nous sommes les héritiers de la loi de séparation de l'Église et de l'État et de la laïcité, c'est-à-dire que nous avons une exigence de neutralité en tant qu'agent de la fonction publique. Vous voyez, on n'exige pas de nous une laïcité urbi et orbi. On exige de nous une neutralité en qualité d'agent, c'est-à-dire dans nos obligations d'agent de la fonction publique. Impartialité, objectivité, et puis vous avez tous dans vos établissements scolaires l'article 12 de la charte de la laïcité qui dit très clairement les choses. Alors, c'est à la fois très simple à expliquer, c'est pas toujours facile à vivre. Par exemple, une des sphères un petit peu d'ombre, jusqu'où va la neutralité du fonctionnaire quand il n'est plus dans l'exercice de ses missions? Là, les juges ont pu, la jurisprudence a pu être très différente. Il y a des jurisprudences quand même qui vont très loin. Vous, comme moi, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, même en dehors de nos fonctions strictement. Moi, ce soir, en sortant de cette salle, dans une sphère qui n'est plus la sphère de mon métier stricto sensu, je ne peux pas publiquement dire que je suis contre la démocratie. Pour moi, c'est déjà une atteinte à ma neutralité. Elle dépasse le cadre strict de mon métier. C'est une adhésion. Alors ça va, ça ne me pose pas d'état de conscience, donc tout va bien. Mais quand même, qu'on y réfléchisse. Un enseignant n'est pas un enseignant 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Mais quand même, par rapport à un certain nombre de valeurs, il ne peut pas ne pas oublier ses droits et ses devoirs de fonctionnaire. Alors, toujours parmi les concepts, et là c'est encore plus délicat, la question des valeurs de la stabilité des normes. Alors, je vous le livre comme tel, c'est, j'allais dire, le nec plus ultra. Ce qu'il faudrait que ces valeurs, ce qui vaut, il faudrait que ce soit désirable et désiré par les élèves. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un critère, les valeurs, pour apprécier un acte, une personne. C'est une référence, les valeurs. Et puis, c'est un idéal. Alors, quelles valeurs, très vite, pas simplement la liberté, l'égalité, la fraternité. Il s'agit bien des valeurs de la République. Or, si dans la devise républicaine, il y a liberté, égalité et fraternité, dans notre Constitution, il y a d'autres valeurs qui sont la dignité, on retrouve la liberté, l'égalité, la laïcité, la solidarité, l'esprit de justice, la tolérance, le refus et l'absence de discrimination. La référence, le système de référence des programmes d'EMC, c'est l'ensemble de ces valeurs. Même si les trois premières sont au fronton de tous les textes, n'oubliez pas les autres. N'oubliez pas les autres, qui en réalité sont pour certaines des déclinaisons des trois premières, mais qui, pour des élèves, peuvent être très explicites. Le refus et l'absence de discrimination, quelle qu'elle soit, c'est vraiment une valeur qui se traduit par des principes du vivre ensemble dans une société démocratique. La tolérance est bien sûr aussi référée à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, mais en tant que telle, c'est une valeur qui est tout à fait une des valeurs constitutionnelles. La dignité qu'on oublie souvent, même dans les établissements scolaires, est une valeur constitutionnelle de notre pays. Et vous voyez bien que ces valeurs, et c'est toute la difficulté, elles touchent aussi les valeurs personnelles, plus proprement morales. Et c'est là où, je reviens au début de mon discours, le lien entre le côté très froid, je m'éloigne de la vie personnelle, et les principes de vie, la morale personnelle, sont quelquefois liés. Bon, je passe un peu vite là sur la laïcité. Peut-être quand même, non. Le dernier point quand même, pour vous rappeler, très important, cette laïcité vous protège. Soyez-en convaincus. Elle nous protège tous les jours. C'est grâce au principe ou à la valeur laïcité que nous sommes protégés des groupes de pression tels qu'ils soient. Respect des familles, mais pas des groupes de pression. Nous n'avons pas à rougir par rapport à n'importe quel groupe de pression si ce groupe de pression s'oppose à la laïcité. Mais elle protège aussi le citoyen du pouvoir de tous les maîtres. C'est vraiment un point important. Alors, la laïcité suppose des valeurs, on en a déjà parlé. Et peut-être le troisième point, juste pour y rester quelques instants, c'est le cas particulier de la France. Alors, mon nom, Klaus, prononcé à la française, dit rien, je m'appelle Klaus, et je suis alsacien. C'est-à-dire que j'ai été formé, et j'ai exercé mon métier de prof d'histoire, dans une partie de la République qui n'est pas laïque. C'est-à-dire dans une partie de la République qui n'a pas eu le plaisir d'être touché par la loi de séparation de l'Église et de l'État. Alors je me moque quand je dis d'une partie de la République qui n'est pas laïque, simplement, je veux dire, j'ai été éduqué à la laïcité d'une manière qui respecte tout ce que je vous ai dit depuis le début, sauf ça, dans des pays qui n'ont pas connu de loi de séparation et de l'État et de l'Église, la laïcité est une famille de pensée, parmi d'autres. Peut-être plus importante que d'autres, mais parmi d'autres. Alors que, maintenant, dans mon métier, vous, dans votre métier ici en Île-de-France, c'est très clairement, les laïcs, ce n'est pas un groupe de citoyens, ce n'est pas une famille de pensée, c'est la République. C'est une petite nuance qui est quand même très, très importante, et ce qui fait que, périodiquement, en gros, tous les 15-20 ans, les hommes politiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord, ont envie de revenir en Alsace et en Moselle sur le cas particulier et d'abroger enfin cette exception culturelle. Alors, je suis très rassuré depuis que je suis tout petit, donc ça fait quelques années, c'est comme ça tous les 15-20 ans, mais personne n'a jamais été très loin. Celui qui a été le plus loin, c'est en 80, François Mitterrand, avec une des grandes alternances politiques. Ça a duré 4 mois, et les juristes conseillers du président de la République lui ont vraisemblablement dit: Monsieur le Président, vous avez beaucoup plus d'ennuis à avoir que d'avantages à jouer cette carte-là. Les trois départements ne nous ont jamais beaucoup embêtés. Laissez-les vivre leur vie. Alors, je me moque de l'Alsace-Lorraine, mais c'est bien pire dans des petits départements nouveaux. Aller faire vivre la loi de séparation de l'Église et de l'État à Mayotte, je souhaite beaucoup de courage. Donc, si on le fait pour les trois départements alsaciens et lorrains, il faudra aussi le faire pour Mayotte, et là, c'est totalement impensable. Mais pour vous dire quand même, voilà un tout petit peu la seule différence qu'il y a, la différence qu'il y a entre la laïcité telle que nous la vivons dans notre école de la République française et la laïcité telle que nos voisins peuvent la vivre. Sur la mise en œuvre de principes de laïcité, ne vous imaginez pas que nous sommes l'État le plus laïque de la planète. On se moque très souvent, nous, on a cette tendance à se moquer, par exemple, des Américains, des Nord-Américains. Ah, c'est terrible, le président américain, il jure sur la Bible. Ce qui, dans un État laïque, est totalement impensable. Oui, d'accord. Mais simplement, dans l'État non laïque des États-Unis d'Amérique du Nord, aucun argent public ne financera jamais le moindre culte. Vérifiez les comptes des TDOM à Notre-Dame de Paris pour voir qui. C'est vous, c'est moi. C'est les contribuables qui les payent. Donc, vous voyez, on peut avoir des acceptions différentes. Il ne s'agit pas du tout de lever les fourches. L'État français participe à des cérémonies religieuses. Tout simplement parce que c'est un choix de l'État français par rapport à, l'anniversaire de mort de qui vous voudrez, et des tas d'autres choses comme ça, ce qui, aux États-Unis, est totalement inconstitutionnel, anticonstitutionnel. Je veux dire, un président qui déciderait de ça, il aurait alors non seulement la presse, mais il pourrait être condamné. Vous voyez que quand on ouvre, quand on lève les tapis, les draps, on s'aperçoit que le principe de laïcité est conditionné tout simplement par la loi, comme celui de la liberté, comme toutes les valeurs. Et ça peut évoluer, peut-être qu'un jour, un président de la République interdira strictement que de l'argent public finance un culte. C'est de son droit le plus strict. Bon, démocratie, quelle heure ? Oui, il faudra bientôt que je pense à vous offrir un petit quart d'heure de pause. Avant la pause, et c'est la transition entre la première et la deuxième partie, je la laisse à l'écran. La morale telle qu'elle est prévue dans les programmes est aux antipodes du moralisme tel qu'on a pu le pratiquer dans l'école de la République il y a quelques décennies. Donc, je vous propose de